en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Messieurs les secrétaires perpétuels, monsieur le chancelier, monsieur le président, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai spontanément accepté, avec plaisir, votre invitation, monsieur le président, pour venir à ce que je venais d'écrire dans le débat. Vous avez fait allusion à ce numéro et à cet article, un article sur la bande dessinée et la géopolitique, qui était donc un angle particulier sur ce sujet. J'étais heureux d'avoir l'occasion de prolonger ici, cet après-midi devant vous, mon propos. J'ai découvert ensuite que cette intervention s'inscrivait dans le cadre d'une année de réflexion tout à fait sérieuse de votre académie sur l'opinion, et plus exactement sur les fabriques d'opinion, et que je devais traiter d'un sujet encore plus vaste, voire immaîtrisable, le cinéma, les séries télévisées, la bande dessinée, fabrique d'opinion, point d'interrogation. J'aurais peut-être hésité si j'avais mesuré l'ampleur du sujet avant, mais finalement, me voilà parmi vous. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Si j'ai une petite culture en matière de bande dessinée, vous avez fait quelques allusions, en tout cas d'une partie de la bande dessinée, si j'ai été toute ma vie, quand j'en ai eu le temps, en tout cas un assidu des salles obscures, si je me suis intéressé plus récemment, ces 15 dernières années, aux séries, je ne suis ni expert du cinéma. Et d'ailleurs, comment en parler ici sans risquer le ridicule devant Jean Tullard, qui est, je crois, pas loin. Les séries, dont je n'ai vu que quelques-unes, souvent captivantes d'ailleurs, comme Downton Abbey ou The Crown, et les séries sur le pouvoir m'intéressent moins, car elles ne m'apprennent rien. Et je n'ai même pas étudié d'aussi près que mon ami Dominique Moisy la géopolitique des séries. Et pourtant, étant né en 1947, j'ai vécu moi aussi dans un tourbillon croissant d'images. Vous voyez donc en moi non pas un spécialiste, je l'annonce et je m'en excuse par avance, mais un honnête homme au sens classique du terme, qui en tout cas s'efforce de l'être, et un peu réfléchi sur son époque, tout en agissant et essayant d'agir en homme de pensée, en incluant ces dimensions de la culture dont nous allons parler aujourd'hui. À cet égard, votre concentration durant une année sur le phénomène de l'opinion me paraît ô combien justifiée. Il y a longtemps que ce phénomène, détecté avec un regard d'aigle par Tocqueville à propos des États-Unis et des futures sociétés démocratiques égalitaristes, a pris l'ampleur que vous savez et est devenu dominant dans la sphère politique au cours du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire, dans ces décennies les plus tragiques, mais aussi dans une période plus récente, dans les démocraties d'opinion médiatisées, marquées par l'individualisme de masse. On parle de régime d'opinion, on peut parler de diplomatie d'opinion, à regret, mais on peut en parler, voire de dictature d'opinion, et il n'est donc pas sans intérêt d'en rechercher les composantes, les racines, les inspirations. Pour les raisons que je viens de rappeler, je ne vous livrerai pas un inventaire impossible d'une communication savante, dans le meilleur sens du terme, académique, mais quelques réflexions personnelles sur le sujet auquel je viens. Dans le cadre d'un travail approfondi, il faudrait d'abord commencer, bien sûr, par distinguer le cinéma et tout ce qui en découle ou s'en rapproche, dessins animés, séries, et d'autre part la bande dessinée. Le cinéma, mais c'est toute une époque de l'Occident triomphant et optimiste, même s'il a permis plus tard à une grande diversité de cultures de s'exprimer à leur tour. C'est au XXe siècle, l'usine à rêve que je citais, vous citiez cette citation, l'usine à rêve selon Malraux. Et il faut noter, par ailleurs, différemment, à propos de la bande dessinée, si on écoute Benoît Peters, qui est de la grande école Hergé, qu'elle a basculé progressivement des États-Unis, les comics, vers l'Europe francophone, du monde de l'enfance vers celui des adultes, de celui de la presse vers celui des albums. Les barrières classiques qui confinaient la bande dessinée à une sorte de sous-culture, sous-production pour enfants, ont cédé il y a longtemps. Et comme le disait Pierre Dac, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Donc il n'y a plus aucune limite à l'extension de ce domaine de la bande dessinée, pas par affaiblissement de la culture, j'en suis convaincu, mais au contraire par son élargissement à de nouveaux domaines. Avant d'aller plus loin, notons d'emblée que nous parlons ici de modes d'expression, pour l'essentiel occidentaux, en tout cas partie d'Occident, même s'ils sont devenus, en tout cas pour le cinéma, universels. Ils racontent, ils magnifient, ils transfigurent l'Occident du siècle écoulé, racontent ses ambitions, son triomphe, son hubris aussi, sa victoire à la Pyrrhus contre l'URSS, ses interrogations, ses convulsions actuelles, lesquelles ne sont pas près de s'achever. Vous trouverez cette toile de fond presque toujours présente dans presque toutes les productions dont nous parlons. Je sais bien qu'aujourd'hui, Bollywood produit chaque année plus de films, 800 dit-on en moyenne, qu'Hollywood, 600 en moyenne. Mais il ne modèle pas l'imaginaire mondialisé. Pas plus que les films égyptiens, turcs ou chinois. Pas encore, en tout cas. Je rappelle souvent que s'il y a de facto un système international, qui est ce qu'il est, il n'y a pas de communauté internationale. Pas encore, c'est un objectif. Ce n'est pas une réalité, sauf à l'intérieur de quelques professions très spécialisées. Le monde imaginaire d'Hollywood est pourtant ce qui s'en est rapproché le plus. Je m'interroge maintenant sur l'impact. L'impact de l'ensemble de ces productions auxquelles nous pensons cet après-midi. Il est absolument colossal, global, enveloppant. Il y a plusieurs façons de mesurer cet impact. Par des chiffres, bien sûr. En un siècle, je crois être en dessous de la réalité, des centaines de milliers de films. C'est peut-être plus d'un million. Au moins, donc, des milliards de spectateurs. Aujourd'hui, on définit, les Américains définissent les blockbusters comme étant les films capables de générer au moins 2 milliards de dollars de recettes en salle. Et on cite Titanic, Avatar, Avengers, Star Wars. Autant on emporte le vent que personne ici n'a oublié est loin. Des bandes dessinées par milliers. Et chaque année, ça se voit, ça se mesure au Festival d'Angoulême. Pour prendre un exemple parmi d'autres, pas forcément le plus connu, avec 80 titres parus, Lucky Luke en est à 300 millions d'albums vendus. 300 millions d'albums vendus, que pour Lucky Luke. Les suites de Black et Mortimer, donc créées par Edgar P. Jacobs il y a longtemps, ou d'Astérix, sont tirées à des centaines de milliers d'exemplaires d'emblée. Quiconque a ici un rapport lointain ou direct avec l'édition, c'est bien ce que ça représente. Le monde lui-même, le monde, a fait le making-of du dernier Astérix, la transitalique de Ferry et Conrad, qui sont des continuateurs du Derzo. Spirou ou Corto Maltese revivent et reviennent. Quant aux séries, qui se comptent par centaines, elles deviennent le phénomène marquant de ce début du XXIe siècle, peut-être plus encore que le cinéma, avec d'immenses succès, y compris quelques pépites, qui peuvent s'étendre sur des décennies et des centaines d'épisodes, comme les feuilletons d'autrefois, avec l'invention extraordinaire de « À suivre ». Pour prendre une des plus anciennes, une des plus emblématiques, Dallas, 357 épisodes. Nous sommes à l'ère des masses, tout le monde le sait ici, essaie d'y survivre malgré tout, et des technologies de communication de masse. Mais l'impact se mesure aussi à la capacité de créer des mythes, de transformer des épisodes, des moments, des personnages en héros. C'est évident pour le cinéma. Cela mesure sa force des premières stars fabriquées à Hollywood par des inventeurs de génie, venus en général d'Europe de l'Est. Il faut s'intéresser à cette généalogie, aux héros plus pâles d'aujourd'hui. Mais ici, je crois que si on mentionnait juste quelques noms, parce que sinon je ne m'arrêterai plus après, Gary Cooper, Clark Gable, Burt Lancaster, Gregory Peck, John Wayne, Ava Gardner, Marilyn, Grace Kelly, etc. Bon, vous voyez qu'on pourrait prononcer des dizaines ou des centaines de noms qui revivent en nous. Mais j'en pense aussi à, dans la capacité à créer des moments qui se gravent en nous et qui sont inoubliables. Prenons Charlot, la danse des petits pains, par exemple. Prenons les moments clés du dictateur, des temps modernes. Et même dans le cinéma français, pendant longtemps directement inspiré des plus grands temps théâtraux, la capacité à faire mouche. Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre. Tout le monde entend, Jouvet, etc. C'est sans fin. J'ai prévenu que je ne ferais pas d'inventaire, ce serait trop long. Mais juste une référence encore de cette capacité à transformer une simple réplique en quelque chose qui devient une référence mythique, un élément de connivence, tiré cette fois-ci de Star Wars, que la force soit avec toi. Et on sait, George Lucas l'expliquait de nombreuses reprises, qu'il a repris et recyclé, s'est inspiré d'à peu près toutes les épopées de l'humanité, en tout cas occidentale, un peu japonaise aussi, dans son cas. Mais je voudrais souligner que la bande dessinée est son meilleur, sous la plume d'auteurs de génie, et là je reviens à Hergé, a eu aussi ce pouvoir, la simple bande dessinée. On se souvient du général de Gaulle, que je dois citer aujourd'hui, 18 juin. Mon seul rival international, c'est Tintin. Hergé a créé des types, Tournesol, les Dupont, la Castafiore, des répliques occultes, des scènes comiques. J'en ai choisi une seule que je vais vous montrer. J'espère que ça va marcher. Alors, voyons. Apprêtez-vous à réviser.
Si.
Ah, on a du mal. On ne peut pas l'agrandir, bon. Certains d'entre vous peuvent peut-être déchiffrer.
Non, mais vous la connaissez par cœur.
Nous aussi.
Qui ne la connaît pas? Attendez, madame, parce qu'il y en a deux, trois autres. Oui, mais j'ai peur de tout éteindre. Je m'y prends mal, là. Est-ce qu'on peut zoomer?
Oui.
Alors zoomer là. Restez là. Je vais passer à la planche suivante.
La planche
suivante. Vous pouvez zoomer à nouveau? Alors, je pense que tout le monde ici, sinon ce serait inquiétant, aura reconnu l'affaire Tournesol, le sparadrap du capitaine Haddock. Au début, pendant plusieurs planches, Haddock a reçu un coup, il a un sparadrap sur le nez, ça n'attire pas l'attention, et le sparadrap se détache dans l'avion, puis après, ça dure pendant des planches et des planches, et là maintenant, il atterrit sur la main d'un des responsables du régime de Plexiglas. C'est donc dans l'affaire Tournesol. Il y a encore une planche après. Dans l'autre sens. C'est un petit exemple que, parmi des centaines d'exemples possibles, ça montre que Hergé, à un moment donné, il a élaboré ce gag. C'est un gag comme vous pouvez en trouver dans Charlot, c'est très très fréquent. Mais aujourd'hui, vous dites le sparadrap du capitaine Haddock, ça a un sens pour à peu près tout le monde. Peut-être plus encore que si on dit les joies du Capitole. J'ai envie de dire, mais c'est quel Capitole, quelle joie, on ne sait pas. Bon, étant donné l'affaissement d'une partie de la culture transmise, ou le coup de Jarnac, etc., etc. Donc il y a une capacité, pas simplement des films avec leur quantité extraordinaire de spectateurs, mais de la bande dessinée, quand vous atteignez ce niveau, qui est celui d'Hergé, à créer des types, des répliques cultes. Ce phénomène est particulièrement frappant dans la bande dessinée franco-belge. Quel chemin parcouru depuis Bécassine et Les Pieds Nickelés jusqu'à des scénaristes véritablement géniaux comme Goscinny, par exemple, ou Jean Van Ham, qui a inspiré 13, Largo Wins, etc., et qui ont trouvé à chaque étape des dessinateurs d'un immense talent. Donc plus aucun domaine n'échappe à la bande dessinée. Plus aucune institution ne croirait déchoir en étant ainsi illustrée. Le Quai d'Orsay n'a pas détesté l'album éponyme, qui était talentueux, assez bien vu, assez exact dans le contenu. À quand l'Académie, ça, je ne sais pas. Peut-être que ça manque. Il y a une autre façon de mesurer cet impact. C'est l'impact, évidemment, celui des petites madeleines. Si je vous parlais que de moi, mais chacun d'entre vous pourrait livrer le même témoignage, moi je dirais en matière de film tout de suite Le Guépard, Les Grands Espaces, Laurence d'Arabie, et même un dessin animé, Le Roi Lion. En bande dessinée, je dirais L'Affaire Tournesol, on vient d'en voir quelques planches, Le Mystère de la Grande Pyramide, Les Sept Vies de l'Épervier, série d'un immense talent par Cotias et Julliard, qui d'ailleurs se termine tristement, ce qui est tout à fait rare dans la bande dessinée. Largo Winch, j'ai eu un ami qui lui ressemblait. En série, je citerai Danton Abbey. Chacun de vous pourrait établir la même liste des films qui l'ont marqué, peut-être les séries, ça dépend des goûts de chacun, mais les films certainement, peut-être les BD. Et si ce n'est pas chacun personnellement, c'est celle des enfants ou des petits-enfants. Mais la vraie question que vous posiez, qui n'est pas simple à traiter, c'est est-ce que ça fabrique l'opinion ? Il faut distinguer. Nous voilà au cœur de votre interrogation. Ces scénaristes, ces réalisateurs, ces metteurs en scène, ces dessinateurs, ces milliers de créateurs, est-ce qu'ils se bornent à exprimer, à retranscrire, à dessiner, à filmer, à illustrer le monde dans lequel ils vivent ? Comme les vitraux auxquels vous faisiez allusion, racontés en lumière des épisodes de la Bible ou de l'Évangile, connus de tous les croyants de l'époque ou de l'histoire. J'ai eu un grand-père, Maître Verrier, Francis Chigaud, qui a réalisé les vitraux de Notre-Dame de Montréal, qui raconte, alors comme une bande dessinée, ligne claire, la découverte et la conquête du Canada. Si c'est seulement le cas, on a affaire, de la part de tous ces créateurs, à des... simplement une projection, une transposition, un reflet en images, fixes ou animées, en dessins, fixes ou animées, des croyances préexistantes et des opinions établies. Dans ce cas-là, ce n'est pas une fabrique d'opinions. Ce sont des miroirs. Quand Hergé décrit dans le Congo belge, album injustement attaqué, la situation ne fait que décrire le paternalisme un peu nunuche de l'époque, mais c'est tout, il n'y a rien d'original dans son propos. Ou alors quand il décrit le Chicago d'Al Capone, le règne des gangsters et les débuts du corned beef. Il n'annonce rien. Dans Le secret de l'Espadon, Edgar P. Jacobs reprend la Troisième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale en Troisième Guerre mondiale avec des particularités, puisque c'est l'empereur usurpateur Madame Damdu qui attaque et que le pays qui incarne la résistance de l'Occident et donc du monde libre, comme on dit dans l'album, c'est l'Angleterre. Il écrit après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est l'Angleterre. Et d'ailleurs, le chef de la base secrète dans les Trois d'Ormuz, à la tête de Churchill. Mais il ne crée pas, il reproduit, il transfigure, en quelque sorte. Quand il décrit la situation en France dans SOS Météor, c'est un épisode de la guerre froide. Et Ulrich, qui est leur ennemi de toujours, est associée aux forces de l'Est. C'est encore plus simple. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de création à ce stade. Il n'y a pas de fabrication. Quand Maurice s'associe au génial Goscinny, pour donner lieu au plus extraordinaire album de la série Lucky Luke, bien, ils ironisent gentiment sur le western, qu'ils adorent, mais ils ne le créent pas. Ils s'inscrivent dans cette vague, avec des connexions. Par exemple, dans Jack Palance, le tueur froid de l'homme des vallées perdues, devient dans Maurice Fil de fer. Il y a un lien entre les deux. Mais ils incarnent un moment, une époque. Ils ne créent pas les choses. De même que dans les années 60, les grands auteurs de BD érotiques, à commencer par Manara, qui est un immense talent de dessinateur par ailleurs, s'inscrit dans le climat du moment, on dirait climat années 60, vous voyez, comme Lozier, c'est l'esprit du temps. Mais on ne peut pas s'en tenir là, parce que ce serait sous-estimer la puissance particulière et subjugante des images et de leur force de conviction, notamment de la part de certains auteurs. Les religions qui avaient proscrit ou prohibé la représentation, divine ou même simplement humaine, avaient bien mesuré, comme les iconoclastes d'une autre façon, la force dévastatrice des images. D'autant que nous sommes dans l'ère des masses, pour des raisons techniques et autres, et qui ont bouleversé encore plus les sociétés que ce n'avait été le cas de l'imprimerie, et que les données de la communication, orale et visuelle, ont été elles-mêmes transformées en acquérant une puissance exponentielle. Donc cet océan d'images dont nous parlons, à travers quelques touches, n'est pas juste un reflet passif et neutre. De même qu'un sondage, aussitôt publié, modifie les données de l'opinion qu'il a saisie. Il les corrige, ou il les amplifie, il les extrapole, et de la même façon, un film, une série, une BD, construit, sauf s'ils passent inaperçus, parce qu'ils sont mauvais ou n'ont pas trouvé leur public, ils construisent une réaction, et donc une opinion, une interrogation, une mémoire. Le reflet modifie son modèle. Mais alors, dans quel sens ? Dans quel sens ? Dans Le Lotus Bleu, je reviens à Hergé. Hergé sensibilise l'opinion à l'agression de la Chine par le Japon. C'est le début de la relation avec Chang, qui est un ami à lui qui vit à Bruxelles et qui l'a convaincu de parler de ça. Et peut-être qu'il modifie un peu cette perception de l'opinion européenne à l'époque. Même remarque quand il explique la persistance de systèmes d'esclavage contemporain dans Kokenstock. Dans les années 60, Goscinny et Uderzo, auquel je reviens, inventent Astérix le Gaulois, Obélix, la potion magique, l'irréductible village gaulois. Leur création ne répond à aucune demande de l'époque. Aucune. Elle ne reflète rien, ils la créent. Ils la créent, ils la fabriquent. Et aujourd'hui, c'est presque impossible, quel que soit l'âge des gens, de repenser à la Gaule, à la guerre des Gaules, à César, etc., au moment gallo-romain, sans penser à Astérix, en souriant, mais avec une imprégnation qui est évidente. Dans le sens de la fabrique de l'opinion, je dirais que l'immense majorité des productions occidentales du siècle écoulé sont édifiantes et manichéennes, comme l'est l'Occident d'ailleurs. On croyait que le manichéisme était une vieille religion perse. Je pense qu'elle a surtout ressurgi dans l'Occident contemporain, après un long sommeil. Le cinéma américain est particulièrement manichéen et édifiant, si l'on accepte quelques prodigieuses exceptions d'auteurs, de metteurs en scène, d'acteurs, et efficace. Par exemple, en France, en 1948, 70% des Français estimaient que c'était l'URSS qui avait joué le rôle essentiel pour abattre les nazis. Aujourd'hui, ce serait la proportion inverse. Alors, entre-temps, la cavalerie hollywoodienne est passée par là, pendant des décennies et des décennies, avec des films extrêmement puissants, talentueux, bien écrits, bien faits, bien joués, bien réalisés. Mais là, vous avez un véritable impact. Alors, évidemment, il y a eu les guerres froides. Il n'y a pas que les films américains, mais c'est presque impossible de dissocier l'évolution de l'opinion européenne, française dans ce cas, ou occidentale, de cette puissance inouïe. Et ce n'est pas par hasard que les Américains, après la guerre, avaient demandé à Blum, qui avait accepté les fameux accords Blum-Byrnes sur la répartition du marché du cinéma naissant. Et à l'époque, personne n'imaginait l'ampleur que ça allait prendre. Arthe Spiegelman, qui se définit comme l'évangéliste de la BD, expliquait il y a 8 jours au journal du dimanche. Pour les comics ou les super-héros, on peut parler d'un phénomène juif. Superman a été inventé par 2 gamins, Joe Shuster et Jerry Spiegel, qui projetaient leurs fantasmes, sans oublier les créateurs de Captain America, Spider-Man, Hulk, etc. En fait, les comic boys ont été créés par des gangsters juifs qui cherchaient à blanchir leur argent. Du coup, beaucoup de jeunes artistes juifs, qui ne trouvaient pas leur place dans les médias mainstream tenus et contrôlés par les WASP, ont trouvé le moyen d'être publiés. Et ils se sont exprimés, ils ont inventé des personnages qui luttent contre le mal qui est Hitler à l'époque. Donc il y a une origine qui est très frappante. Les motivations d'origine d'Hergé ou d'Edgar P. Jacobs sont différentes, mais leurs héros sont vertueux et ils luttent aussi contre le mal, même si le mal est moins satanique. Rastapopoulos, le général Tapioca, la Bordurie, Ulrich, et tout ça sera plus tard, à travers des formes d'expression variées, les missions de James Bond, de SS 117, de Lucky Luke, d'Astérix, de SAS, comme des grands héros des westerns classiques, qui sont dans le monde contemporain, ce qui se rapproche le plus des tragédies classiques. Ces héros sont souvent solitaires, Alix, Lucky Luke, Largo Winch. Évidemment, ces remarques ne s'appliqueraient pas tout à fait à la bande dessinée historique. Personne, j'imagine, n'a oublié les belles histoires de l'oncle Paul, mais on peut citer aussi l'Histoire de France en bande dessinée, parue chez Larousse en 1980, réédité par Le Monde en 2008, l'exemple même de ce que certains plus tard s'acharneront à déconstruire. Aujourd'hui, l'histoire dessinée de la France à la découverte se veut à la fois dans cette tradition et en même temps malicieuse. Pas de héros non plus vertueux dans les BD érotiques auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure en citant Manara, mais qui par ailleurs a déjà écrit le premier tome d'un extraordinaire Caravage. Et on voit que le talent de ce dessinateur qui s'est exprimé dans ce filon est un talent en soi, pas simplement un talent pour la bande dessinée. Nous en sommes donc maintenant à plusieurs générations d'Occidentaux qui ont vécu immergés dans ce bain. Les enfants sont devenus grands, ils sont devenus un jour des grands-parents, ils s'attachent à transmettre, vous voyez les tirages des continuateurs, donc de Black et Mortimer ou des Astérix. Leur imaginaire, leur représentation du monde, la nôtre, est inséparable de ces héros de pellicule ou de papier, comme celle des Grecs anciens l'était des dieux de l'Olympe. Ces décennies de films, de séries, de bandes dessinées ont façonné plus qu'une opinion précise, exprimée ou identifiable, une représentation du monde. Elle était jusqu'ici essentiellement occidentale. Attendez-vous là aussi à une compétition mondialisée. Et nous verrons des péplums chinois, des sagas sur Gengis Khan, etc. La colonisation vue par les colonisés, etc. Ça a un peu commencé dans tous ces pays, naturellement. Les spécialistes le savent. Mais ça n'a pas atteint une sorte de niveau global, une sorte d'imaginaire collectif. Pas encore. Au terme de cette rapide excursion dans le monde enchanteur des images, je soumets à votre réflexion quelques remarques. Que le siècle écoulé se soit à ce point exprimé par un océan d'images ne peut pas ne pas avoir eu à la longue, par imprégnation quotidienne et transformation continue, donc des enfants, d'adolescents puis en adultes, une influence profonde. Bien sûr, il y avait eu, il y a 18 000 ans, les sublimes représentations animalières de Lascaux, dont on ne connaît ni les auteurs, ni le sens, ni la fonction. Certes, il y a eu les fresques des tombeaux pharaoniques, où l'on sent presque la brise au bord du Nil. Il y a eu les vitraux des cathédrales. Mais les êtres humains de ces époques passaient l'essentiel de leur vie à vivre et non pas à regarder, et encore moins à se regarder. Notre temps est radicalement différent. Nous vivons dans des sociétés collectivement narcissiques, ce qui se combine parfaitement à l'individualisme de masse qui s'impose aujourd'hui partout, à la fois pour des raisons technologiques, économiques et idéologiques. Chacun est photographe. Le selfie symbolise une société qui se regarde se regarder. Société en abîme. Remarque suivante, une exacerbation sans fin de l'émotion et des sentiments, enthousiasme, peur, indignation, colère, identification, joie. Exacerbation au détriment de la réflexion. Tous ces sentiments, toutes ces réactions ne font pas appel à la même partie du cerveau. Phénomène, à mon avis, semblable à l'exigence vindicative de démocratie directe ou participative contre la démocratie représentative, qui rend progressivement presque impossible l'exercice de la responsabilité dans les démocraties modernes, comparable aussi à la pression continue dévastatrice de l'information continue sur toutes les formes plus réfléchies de communication. L'urgent chasse l'important. Tout le monde connaît cette phrase de René Char, que je ne cite pas mécaniquement parce qu'on est obligé de citer René Char, mais parce que je l'ai personnellement connu. Vous constatez donc, en m'écoutant, et je vous remercie de votre attention et de votre gentillesse, que si j'étais enchanté, moi aussi, au sens magique du terme, si l'indicatif de Nino Rota dans Le Guépard résonne toujours en moi, je n'en suis pas moins lucide. Et c'est pourquoi j'aimerais conclure devant vous par un éloge apparemment paradoxal, mais qui ne l'est pas, de l'écriture, de la lecture, de la réflexion solitaire, du recueillement, du silence et de la méditation. Comment vivre ce temps, ces images, sans jamais se laisser phagocyter par elles ?